Bonjour à tous et bienvenue dans cette chronique boursière. Nous sommes le 20 décembre 2023. Les jours se suivent et se ressemblent. Les intervenants arrivent au bureau tous les matins et se disent que c'est quand même vachement chouette de voir que les taux vont baisser l'année prochaine. Ils dégainent les ordres d'achat et font monter le marché. Ensuite, ils rentrent à la maison le soir et le lendemain, ils reviennent au bureau et ils se rendent compte que l'année prochaine, la Fed va baisser les taux et ils continuent d'acheter. Les valorisations n'ont plus aucune importance. La diversification ne fait plus aucun sens. Et si tu n'es pas dans le marché, tu n'es plus personne, tu n'existes plus. Au fond, tu sais que ça va mal se finir, mais acheter, c'est plus fort que toi. Je vous assure que mon métier n'a jamais été aussi compliqué. Raconter la même chose jour après jour et donner l'impression qu'il s'est passé quelque chose de différent pour justifier la hausse. Paraître étonné tous les matins alors que strictement rien n'a changé et que les raisons qui nous ont poussé à acheter le 1er novembre sont exactement les mêmes qu'aujourd'hui, sauf que le Dow Jones est 15% plus haut et que le SOX est 30% plus haut, si ça n'est pas plus. Les experts en finance ont perdu le sens des réalités et sont déjà en train de se dire que 2023 était exceptionnel et que 2024, ça sera encore mieux. La bourse, c'est tellement facile quand ça fait que monter et que plus personne n'a de doute que l'on aurait vraiment tort de se priver. Après, les arguments pour dire que ça ne peut pas durer et que ça va finir par nous péter à la figure sont légion. Il n'y a pas besoin d'aller chercher très loin, ni même de se baisser pour les ramasser, sauf que, comme personne ne veut les écouter et en tenir compte, on peut se rouler par terre et agiter des indices contrariants dans tous les sens. Le bull market fait tellement de bruit avec ses soirées champagne-caviar que personne n'écoute. Nous sommes en train d'assister à un énorme short squeeze et personne ne sait vraiment quand c'est qu'il va s'arrêter. Si l'on doit se demander ce qui s'est passé hier, on peut retenir trois choses. Tout d'abord, l'inflation en zone euro s'est élevée à 2,4% en rythme annuel et en novembre et à 3,6% une fois exclus les composants de l'énergie, de l'alimentation, de l'alcool et du tabac. En gros, les trucs qui servent à rien. Pour le mémoire, le mois dernier, nous étions à 2,9% et 4,2%. La confirmation d'une accalmie devrait être considérée comme une bonne nouvelle pour Christine Lagarde, qui a pourtant fait savoir hier qu'aucune discussion concernant la baisse des taux avait eu lieu à la BCE. Mais on s'en fout! On s'en fout parce que nous, on sait que ça va finir par arriver et en attendant, on achète tous les jours pour être prêt. Aux USA, on a continue de monter avec un argument, un seul, le fait que les taux allaient se détendre en 2024. Je ne vous refais pas un dessin, mais c'est à peu près le seul argument que nous avons. Hier, FedEx a publié des chiffres qui démontrent que sur une année, les choses n'ont pas vraiment changé et ont offert des projections plus que prudentes. Le titre s'est fait démonter after close et chuter de 10%. Mais les marchés s'en moquent comme de leur première cravate et le Dow Jones terminait au plus haut de tous les temps, tout comme le Nasdaq. Et pendant ce temps, le S&P 500 réduisait la distance à laquelle se trouve son record à 1%. Après, il y a aussi eu M. Bostich, membre de la Fed, qui a déclaré que lui et ses collègues n'avaient pas vraiment abordé le sujet de la baisse des taux, chose qui, dans un monde normal, n'aurait pas plu au marché. Mais nous ne sommes pas dans un monde normal. Nous sommes dans un copier-coller de l'an 2000. On peut constater que le même type de comportement est en train de se reproduire et que l'on ne veut surtout pas aborder le sujet. Alors les avis et les opinions de Bostich, tout le monde s'en cogne, même et surtout si le ton peut paraître au quiche. Nous avons notre feuille de route et on s'y tient en attendant que les taux baissent pour de vrai. Personnellement, je suis né bullish et je le resterai, mais il y a des moments où les hausses verticales me font quand même globalement peur, et c'est ce que l'on vit actuellement. On peut se demander la rationalité de certains mouvements et s'interroger sur la concentration de certains investissements. Et lorsque l'on parle de concentration, on est obligé de parler des Magnificent Seven. À l'approche de la fin d'année, on peut faire un bilan assez spectaculaire qui est le suivant. Le gap entre les Magnificent Seven et les 493 entreprises restantes du S&P 500 est désormais de 63%. En 2023, les Magnificent Seven ont progressé de 75%, alors que le reste n'a progressé que de 12%. Au total, le S&P 500 a progressé d'environ 25% cette année, bien que ça ne soit pas terminé, soit plus du double du rendement total du S&P 493. En d'autres termes, les Magnificent Seven ont surmonté 3 fois plus que le S&P 500 et 6 fois plus que le S&P les 493. Sans oublier qu'il y a 7 semaines, le S&P 493 était en baisse de 2% pour l'année 2023. On ne va pas se plaindre de cet exploit comptable et on ne va pas non plus le contester. On ne va pas remettre la qualité de ces sociétés en question, ni leur hégémonie. Mais la performance annualisée et la taille de ces dernières peut laisser songeur, sans oublier que le jour où le vent tourne, la fessée sera extrêmement, mais alors extrêmement violente. Il y a aussi un chiffre qui fout la trouille, c'est les inflows dans les trackers du S&P 500. On sait que quand on ne sait plus quoi faire, on achète des indices. Et pour espérer gagner un peu d'argent, on va aller gratter sur ceux qui ne sont pas encore au plus haut de tous les temps. Et là, le dernier qui doit encore battre ses records, c'est le S&P 500. Depuis les annonces de la Fed la semaine dernière, en 5 jours, 50 milliards de dollars sont rentrés dans l'ETF SPY qui traque le S&P 500. C'est plus que n'importe quel autre ETF sur toute l'année et c'est la plus grosse entrée de fonds sur cet ETF sur les 5 jours depuis 2018. Pour mémoire, la dernière fois que cela s'est produit, nous étions à la fin du mois de janvier 2018. La semaine suivante, la volatilité a explosé, passant de 12 à 50%, et le S&P 500 a perdu 10% en moins de deux semaines. Alors bien sûr, ça veut strictement rien dire, et ça signifie absolument rien non plus, mais 50 milliards d'inflows en quelques jours, ça ne peut pas, on ne peut pas s'empêcher de se dire, ça n'est pas le club des investisseurs du coin qui a fait un pooling pour passer un an global. Et il y a des courants et des volumes qui sont énormes et qui sont dans une dimension où nous ne sommes pas. Mais on s'en fout, parce que l'année prochaine, les taux vont baisser, le Nasdaq va à 30 000, Apple vaudra 4 000 milliards au minimum, et puis peut-être même que le Dow Jones atteindra les 100 000 dollars, les 100 000 points avant le Bitcoin. Le 26 juin 1999, il y a un livre qui est sorti et il s'intitulait « Dow 40 000, comment profiter du plus grand bull market de l'histoire ». À l'époque, on parlait de la bulle Internet et quelques mois plus tard, tout le monde se foutait de la gueule de l'auteur. Il aura fallu être patient, mais 24 ans après, on dirait qu'il va avoir raison. Et ce matin, c'est la fête à Tokyo. Le Nikkei est au plus haut depuis 33 ans. Après les commentaires dovish de la BOJ d'hier, les actions japonaises ont repris leur tendance à la hausse. Pour le reste, Hong Kong est en hausse de 1% et la Chine en baisse de 0,5%. Le pétrole est à 74$ alors que les rebelles houthis forcent les pétroliers à changer de route et à contourner toute l'Afrique pour éviter les drones. L'or est à 2051$ et le Bitcoin se traite à 42 600. Dans les nouvelles du jour, on est bien plus intéressé par la date à laquelle le S&P 500 va atteindre ses plus hauts historiques que par le reste. Les futurs sont encore en hausse ce matin. On notera que Trump ne pourra pas participer à l'élection présidentielle au Colorado selon la Cour suprême du Colorado. Encore du boulot pour les avocats d'ici l'année prochaine. Et puis une étude est sortie aux USA et on apprend que les conducteurs de Tesla sont ceux qui ont le plus d'accidents et que les conducteurs de BMW sont ceux qui se font le plus souvent choper pour alcool ou drogue au volant. Je sais que cette nouvelle ne vous sert absolument à rien dans le cadre de vos investissements, mais au vu de ce qu'il y a à dire ce matin, il fallait bien meubler. À côté chiffres du jour, il y aura le PPI en Allemagne ainsi que le climat de la consommation. Il y aura aussi la confiance des consommateurs aux USA qui, compte tenu des ventes de ces dernières semaines, devrait être explosive. Il y aura ensuite les ventes des maisons existantes et les inventaires pétroliers. Pour le reste, on ne va pas se leurrer. Nous devrions continuer à sauter de joie en attendant les records du S&P 500 et à se répéter encore et encore que c'est quand même trop sympa de savoir que les taux vont baisser l'an prochain. Tout sera tellement facile dorénavant. Passez une excellente journée. Et à demain pour de nouvelles aventures.